franceinter.fr.
Le journal Alain Passerelle. Alain, bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, l'attentat de Manchester qui a fait au moins 22 morts hier soir. La police pense connaître l'identité de l'homme qui a fait exploser un engin à la sortie du concert hier soir. On l'apprend un instant, un homme de 23 ans en liaison avec cet attentat vient d'être arrêté. La première ministre britannique parle d'un acte abominable et effrayant, acte qui n'est toujours pas revendiqué. Tout semble converger toutefois vers le groupe État islamique. Nous serons sur place, nous entendrons des témoignages du drame, nous aurons en ligne un député britannique, Tom Blake. En France, la sécurité va être renforcée autour des événements culturels et sportifs, culturels particulièrement les concerts. Dans cette édition également, Emmanuel Macron qui reçoit depuis ce matin les partenaires sociaux pour leur parler notamment de la réforme du Code du Travail, il les écoute également. Donald Trump qui est allé rencontrer Mahmoud Abbas à Bethléem ce matin et qui redit qu'il veut tout faire pour parvenir à un accord de paix. Et puis direction Cannes et une photo historique, notamment pour fêter les 70 ans du festival. Le temps, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore du très beau temps.
Et oui, plein soleil en Méditerranée avec du vent, Mistral, Tramontane, jusqu'à 60 km à l'heure. Un beau soleil s'installe aussi entre la Vendée et l'Aquitaine. Il reste de la grisaille du sud-ouest vers le centre, mais là aussi le soleil va revenir. Ça va rester encombré vers la pointe bretonne, vers le Cotentin, et puis partout ailleurs, on a de belles périodes de soleil, parfois une petite ondée en montagne. Pas moins de 19 degrés à Deauville cet après-midi, 20 à Saint-Brieuc et Amiens, 25 degrés à Paris, Nantes, Bourges, Toulouse, Bastia, 27 pour Strasbourg et pour Lyon, jusqu'à 30 à Marseille et 31 à Montpellier.
Et demain, on recommence, Céline.
Et oui, toujours beaucoup de soleil, un peu de grisaille vers la Manche le matin, mais ça ne durera pas. De la chaleur, pas moins de 21 à 31 degrés. Pour la suite, toujours du très beau temps, des températures estivales. Dans le sud-ouest, on pourrait approcher les 35 degrés jeudi.
Difficile de faire une hiérarchie dans l'horreur. On n'est pas moins innocent à 15 ans qu'à 60. Disons qu'avoir pour objectif de tuer à l'aveugle de très jeunes gens venus chercher du plaisir dans une salle de concert choque encore plus que n'importe où ailleurs. En France, nombreux sont ceux à qui sont revenus ce matin ou hier soir les images du Bataclan. 22 morts, donc 59 personnes blessées. C'est le dernier bilan de l'attentat qui a eu lieu hier soir à Manchester à 23h30, heure de Paris, au Manchester Arena, la salle du centre-ville, à la fin du concert de la chanteuse Ariana Grande. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Julie, vous êtes à Manchester où l'on connaît désormais les circonstances de l'attentat.
Le chef de la police a d'abord donné ce matin quelques informations. Nous pensons que l'agresseur était seul, mais nous ne savons pas encore s'il y a un réseau derrière lui ou non. Nous pensons également qu'il avait sur lui un engin improvisé qui a explosé à la sortie du concert. Theresa May est allée un peu plus loin sur la base de ces informations il y a quelques instants. L'homme, l'agresseur, est peut-être identifié, a déclaré la première ministre britannique. On pense connaître son nom, on ne le donnera pas. Il voulait faire un maximum de victimes, dit-elle, et on a il y a quelques minutes, vous l'avez dit, qu'un homme de 23 ans a été arrêté dans le cadre de cette enquête. Le quartier de l'Arena, au building vitré et immeuble de briques ocre, est bloqué ce matin. Hélicoptères en ronde, voitures de police au coin des rues, cordons de sécurité bleus qui empêchent quiconque d'aller plus loin. Des habitants tentent quand même de s'approcher pour récupérer une voiture inaccessible depuis hier soir, pour se recueillir aussi. J'ai croisé un jeune homme très ému qui a fait un crochet avant d'aller au collège ce matin. J'aurais dû être dans la salle de concert hier soir, un empêchement de dernière minute, j'en ai le souffle coupé. Ce matin, sachez qu'il y a eu aussi une alerte à Manchester, une autre alerte dans un centre commercial évacué par la police. Pas plus d'informations vérifiées pour le moment. À Manchester, Benjamin Chauvin, Julie Pietri, France Inter.
Merci, preuve de la nervosité effectivement qui règne à Manchester ce matin. Ce centre commercial évacué rapidement et puis qui est en train de rouvrir. Revenons à hier, à ces circonstances dramatiques que l'on commence hélas à bien connaître, les scènes de désolation, le sang, les victimes désœuvrées, les pleurs des familles, des témoignages rassemblés par vous, Delphine Evenou.
Des témoignages presque tous identiques et qui commencent par une explosion, puis quelques secondes d'incrédulité. Cette adolescente dit avoir eu très peur, avoir cru d'abord à un gros ballon qui éclatait avant de comprendre que le son était trop fort, puis les cris, la bousculade, le choc. Dans cette foule, des milliers de personnes très jeunes hier soir et les parents paniqués, comme cette maman venue au concert avec sa fille.
On a entendu une très grosse explosion. On s'est tous arrêtés, bouche bée, pendant quelques secondes. Il y avait des gens qui pleuraient, qui hurlaient, des gens couverts de sang, et d'autres qui criaient parce qu'ils ne retrouvaient pas leurs enfants. Une femme était complètement hystérique, c'était affreux.
Et puis il y a bien sûr ces spectateurs qui se trouvaient du côté de la salle où l'explosion était la plus proche. Kira raconte choquée sur CNN.
Il y avait ces 20-30 corps par terre, ils étaient morts je crois. Il y avait d'autres personnes blessées. Cet homme, par exemple, il tenait sa femme, je pense. Et elle avait l'air d'aller vraiment mal.
Et on le rappelle Alain, hein, Ariana Grande, c'est une chanteuse star chez les adolescents, même chez les moins de 10 ans. Et dans la panique hier soir, certains jeunes se sont enfuis. Des parents sont toujours ce midi à la recherche de leurs enfants.
Merci Delphine Evenou. L'Angleterre frappée une fois de plus donc par un acte terroriste, le plus meurtrier depuis juillet 2005. C'était dans les transports en commun de Londres. Il avait coûté la vie à 56 personnes. Il avait été revendiqué par Al-Qaïda. Depuis, il y en a eu 5 en comptant l'attentat d'hier. Le dernier, c'était il y a 2 mois, lorsqu'un homme avait foncé dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster, faisant 5 victimes. En Grande-Bretagne, on est en campagne pour les législatives de début juin. Ce n'est peut-être pas un hasard. Elle a été interrompue autour de Theresa May. Une réunion interministérielle de crise a eu lieu ce matin. Marina Daras est à Londres.
Une attaque terroriste qui choque la classe politique. Alors que la campagne pour les élections du 8 juin a été suspendue, Theresa May réagissait ce matin après la réunion d'urgence. Elle dénonce une attaque barbare qui ne vise qu'à diviser.
Nous n'arrivons pas à comprendre comment quelqu'un peut viser des enfants, peut être aussi tordu et malade pour perpétrer ce genre d'attaque. Et nous essaierons de tout faire pour traduire en justice les responsables de cette attaque. Les forces de police et les services de sécurité auront toutes les ressources nécessaires pour mener à bien leur tâche.
Theresa May va se rendre sur place dans la journée pour apporter son soutien aux habitants et au maire de Manchester, Andy Burnham, qui a appelé la population à se retrouver ce soir à Manchester en face de la mairie pour une veillée en hommage aux victimes. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Bonjour Thomas Breck.
Bonjour.
Vous êtes député libéral-démocrate, porte-parole de votre parti pour ce qui concerne les affaires étrangères. Inutile de dire que le pays qui est le vôtre est choqué par ce qui s'est passé hier soir. Vous sentez cette émotion dans la rue, dans la presse ?
Oui, bien sûr. Et je dois commencer par exprimer mes condoléances pour les familles affectées.
Oui, alors comme partout évidemment, hein, Tom Breck, s'attaquer à des enfants, en tout cas à de très jeunes ados, choque particulièrement chez vous comme ailleurs. C'est cet aspect qu'on retient ce matin, ces victimes qu'on dit innocentes.
Oui, attaquer un concert que la plupart des gens qui y étaient sont des jeunes filles, c'est abominable. Et je pense que ça a été choisi pour avoir un impact, le plus grand impact possible.
Ce n'est évidemment pas par hasard. Le dernier attentat en Grande-Bretagne, en Angleterre, c'était en mars, donc sur ce pont de Westminster. En France, on semble conscient d'une menace permanente. On voit les policiers, l'opération Sentinelle à Paris, on est fouillé un peu partout. Est-ce qu'on a ce même sentiment en Angleterre qu'une menace est possible à tout moment?
Oui, nous le savions que malheureusement une attaque serait possible. En ce moment, il y a à peu près 3000 personnes que la police essaye de suivre, qui présentent un risque. Et nous savons que la police ne peut pas protéger tous les bâtiments publics, par exemple.
3000 personnes dont, comme en France, des jeunes gens qui reviennent de Syrie notamment?
Oui, bien sûr, mais tous les 3000 ne reviennent pas de Syrie. Il y a aussi des Britanniques, par exemple, par l'Internet, qui ont été engagé dans le djihadisme, mais bien sûr les gens qui retournent de la Syrie sont d'un intérêt particulier pour la police en Grande-Bretagne.
À Londres, lors de l'attentat sur le pont de Westminster, enfin juste après, on avait eu l'impression que presque rien n'avait changé dans la vie des Londoniens. Qu'en Angleterre, on ne veut pas donner prise en quelque sorte au terrorisme et que finalement on a fait pratiquement comme si de rien n'était. Est-ce que vous avez ce sentiment chez vous ? Est-ce que vous vous sentez en quelque sorte suffisamment protégé ?
Oui, je pense qu'on est bien protégé, mais on ne peut jamais protéger tout le monde contre un individu qui veut attaquer, par exemple, une foule avec une voiture. Mais après l'attaque à Westminster, il y a eu des enquêtes qui, par exemple, essayent de voir si le périmètre de Westminster est sécurisé, et aussi pour voir si la réaction de la police et des autorités parlementaires a été appropriée. Et s'il y a des leçons de cette enquête, je suis sûr que ça va s'appliquer aussi à ce genre d'attentat que nous avons vu hier soir à Manchester.
Et apparemment, l'enquête va assez vite. On connaît pratiquement l'identité de l'auteur, ou un de ses complices. Et lui ou un de ses complices a été arrêté ce matin. Vous avez l'impression que ça va vite, cette enquête ?
Oui, ça a l'air d'aller vite. Et je pense qu'à la fin de cette enquête, on va savoir si, par exemple, la police ou les services secrets auraient pu intervenir plus tôt, ou s'ils ont besoin de plus de personnel ou de technologie pour essayer d'arrêter une attaque future. Parce que malheureusement, je pense que ce ne sera pas la dernière attaque.
C'est la campagne des législatives actuellement en Angleterre. Les élections auront lieu début juin. Vous pensez que tout cela peut avoir une influence sur la campagne à venir, que les gens vont y penser en mettant dans l'urne leur bulletin de vote ?
J'espère que non, parce que si ça change le résultat, je pense que le terroriste aura gagné d'une certaine façon. Je pense que il est correct qu'aujourd'hui on ne fait pas campagne, mais je pense que demain ou certainement d'ici quelques jours, la campagne continuera. Et c'est dans une démocratie, il est important que ces campagnes continuent.
Est-ce que comme en France, l'extrême droite peut parfois tirer profit de ce genre de choses et lancer des accusations à propos d'autorités qui ne seraient pas suffisamment inflexibles sur la chose ?
Ce sera beaucoup plus difficile en Grande-Bretagne parce que le parti qui aurait peut-être essayé d'utiliser une approche que vous avez décrite, UKIP, n'a pas des candidats dans tous les sièges dans ces élections. Et le public vote de moins en moins pour ce parti. Donc, je pense que aucun des partis politiques ne va essayer de faire une avance, une percée politique après une attaque de cet ordre.
Merci Tom Breck, député libéral démocrate. Merci d'avoir été avec nous. Comme de nombreux chefs d'État, Emmanuel Macron a fait part ce matin de son effroi et de sa consternation. À Berlin, Angela Merkel de son soutien au peuple britannique et de sa compassion. Donald Trump a condamné une attaque perpétrée par, a-t-il dit, des losers malfaisants. Quant à Vladimir Poutine, il s'est dit prêt à développer la lutte antiterroriste avec Londres. Réactions diplomatiques qui n'en sont pas moins sincères, mais certainement moins ressenti de la part de ceux qui ont vécu ce genre de drame. Ainsi, Georges Saline, qui a perdu sa fille Lola un jour de novembre au Bataclan.
Pour moi, c'est chaque nouvel attentat, voilà, on a une sensibilité particulière par rapport à ça, quoi. C'était en plus un public extrêmement jeune. Hein. Je ne sais pas le détail des victimes encore, mais on peut imaginer qu'on va avoir des adolescents. Hein. Ariana Grande, c'est une chanteuse pour minette, quoi. C'est peut-être pas non plus complètement par hasard que tout ça se passe à 15 jours des élections en Grande-Bretagne. Hein. Donc, que peut-on dire ? Moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que bien sûr, on n'a pas fini avec le terrorisme et que le combat continue. Toute ma sympathie va aux victimes et à leurs proches. Il faut continuer à se battre. Moi, hier soir, j'étais
à l'invitation d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Villaret pour voir une pièce de théâtre qui s'appelle Cœur de vie, sur le sens de la vie, qui est liée aux victimes des attentats du 13 novembre. Pendant ce temps, il se passait ça à Manchester. Voilà.
Georges Saling, qui est aussi président de l'association 13 novembre, interrogé par Béatrice Duguet. Point sur la situation britannique et l'état de la menace en France. Gérard Collomb a réuni ce matin, place Beauvau, les responsables des services de sécurité et de renseignement. La sécurité, a dit le ministre de l'Intérieur, va être renforcée autour des événements culturels, particulièrement les concerts, événements sportifs également. Une circulaire sera envoyée ce mardi en début d'après-midi à l'ensemble des préfets. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'attentat de Manchester. Hier soir, 22 morts, donc je vous rappelle le bilan provisoire. La finale de l'Europa League qui doit avoir lieu demain à Stockholm entre Manchester, justement, Manchester United et l'Ajax d'Amsterdam, et qui s'annonçait comme une belle fête sportive, a pris évidemment une autre tonalité après l'attentat meurtrier d'hier soir. Et puis à Paris, un geste symbolique, mais que faire d'autre? Une tour Eiffel qui sera symboliquement éteinte ce soir à partir de minuit pour rendre hommage aux victimes.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
C'est au pied du mur que, paraît-il, on voit le maçon. Il en est de même pour les présidents, dont certains ont été plus aptes à conquérir le pouvoir qu'à l'exercer. Emmanuel Macron a donc la truelle en main. Ce matin, il a retroussé les manches. Depuis 9h, il reçoit les partenaires sociaux individuellement et en face à face pour leur parler de la loi travail à venir. Mais pas seulement, il écoute apparemment les préoccupations, les souhaits, les remarques des leaders du champ social. Depuis 9h, sont arrivés successivement à l'Élysée Laurent Berger pour la CFDT, Philippe Martinez de la CGT, Jean-Claude Mailly pour FO et Pierre Gattaz du MEDEF. Autrement dit, les quatre poids lourds du monde social suivront quatre autres cet après-midi. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Alain.
Dans la cour de l'Élysée, vous les avez vus tous entrer et sortir. Une tendance générale plutôt positive de l'accueil reçu.
Et chacun soigne en réalité son image. Un président à l'écoute des syndicats, ouverts à la négociation, opération séduction donc du président Macron, qui va jusqu'à raccompagner Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, sur le perron de l'Élysée.
Ça s'est bien passé. Après, on a quelques différences d'appréciation. On n'est pas d'accord, mais au moins on a échangé.
Pas de plafond des indemnités au prud'homme pour la CGT, mais aussi pour Force Ouvrière ou pour la CFDT. C'est la véritable ligne rouge et le front syndical de cette nouvelle loi travail. Pas d'ordonnance non plus à la sauvette en plein été ou gare à la grogne sociale. Dès la rentrée, a prévenu Philippe Martinez à la CGT.
Ce que j'ai voulu lui faire comprendre, c'est que j'espère qu'il a compris, en tout cas il avait l'air de comprendre, que c'est pas pendant que les salariés sont en congé qu'il faut s'occuper d'eux. Il a eu l'air de comprendre.
Pour la CFDT, la priorité est de ne pas écrire une nouvelle loi travail désincarnée et subie par les salariés. Laurent Berger ne veut pas valider une nouvelle loi travail sans avancée sociale.
Il y a besoin de faire des choses à hauteur d'homme qui concernent les travailleurs en termes d'accès à la formation professionnelle, d'aide à l'emploi et d'aide au retour à l'emploi pour tous ceux qui en sont exclus. Moi, j'ai insisté sur les moyens et la reconnaissance syndicale dans les entreprises. Pas de négociation d'entreprise en dehors d'un accord avec une organisation syndicale, mais là-dessus, il ne m'a pas semblé qu'il y ait de désaccord.
À Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly a insisté sur la méthode et le calendrier. Pas de réforme au pas de charge. Du côté du MEDEF, Pierre Gattaz est toujours reçu dans le bureau d'Emmanuel Macron. Les consultations continuent cet après-midi à l'Élysée et demain. Dans le dur des négociations demain à Matignon avec le Premier ministre et la nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Merci Laurent Kramer, vous étiez avec François Rivalan à la technique. Avec cette réforme du travail, pour le moins délicate, vous l'avez évoqué, l'été voire l'automne seront-ils chauds? Connaîtra-t-on de nouveau l'agitation sociale autour de cette loi qui arrive? Dans l'équipe Macron, on estime qu'elle serait en quelque sorte, cette agitation, illégitime, puisque cette fois, la France a voté pour quelqu'un qui avait clairement prévenu de ses intentions dans ce domaine. Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner avertit même les syndicats contre toute volonté de, dit-il, bloquer la France et pour lui, pas question de dénaturer le projet.
Si on cherche à faire une loi qui rassure tout le monde et donne raison à tout le monde, le texte, il est déjà écrit. Il n'y aura pas de texte. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut accepter ce dialogue, mais il faut aussi que les syndicats entendent la nécessité de faire bouger les lignes. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'artisan puisse demain ne pas avoir peur d'embaucher un apprenti, ne pas avoir peur d'embaucher un gars. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, il y a un vivier d'emploi. On voit bien qu'on a une dynamique économique forte. Il ne faut surtout pas la fragiliser par un carcan administratif. Bien sûr, il faut empêcher tout blocage. Mais on n'a pas le droit de bloquer la France parce qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle mesure. Surtout quand elle était au cœur du projet présidentiel d'Emmanuel Macron. La loi El Khomri, la difficulté, c'est que ça n'était pas au cœur du projet politique, du mandat politique de François Hollande. Et elle est venue en fin de mandat. Là, je crois qu'aujourd'hui, pour les Français, les choses sont claires. Ils ont élu Emmanuel Macron avec la volonté de libérer le travail. Donnons-nous les moyens du dialogue et jamais du blocage.
Autre sujet de discorde à venir, les suppressions de postes de fonctionnaires, c'était aussi dans le programme Macron. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a entamé ce matin un cycle de rencontres avec les syndicats de la fonction publique. Emmanuel Macron, précisément, avait avancé le chiffre d'une réduction de 120 000 des effectifs de la fonction publique sur le quinquennat, 50 000 pour l'État, 70 000 dans les collectivités locales. Loin du déclinisme ambiant sur l'attractivité de la France, voilà le baromètre annuel du cabinet EY qui affirme qu'elle s'est nettement améliorée l'an dernier, cette attractivité. Un véritable bond en 2015 des implantations étrangères dans l'Hexagone, plus 30% par rapport à l'année précédente. Concrètement, c'est 779 projets d'implantation ou d'extension qui ont été recensés. Ils ont généré près de 17 000 emplois. Dans la même veine, l'INSEE nous dit que le climat des affaires s'est légèrement amélioré ce mois-ci en France. Il se maintient franchement au-dessus de la moyenne pour le sixième mois consécutif. Et puis, SFR, le nom, c'est bientôt fini. Patrick Drahi va créer une marque unique, Altice, pour tous ses actifs, dont l'opérateur télécom français. Le milliardaire franco-israélien veut ouvrir, un nouveau chapitre de son ascension, nourri à grand renfort d'acquisition. Seuls, entre autres, les médias français, BFM, RMC ou encore Libération, garderont leur nom tel quel. Dans l'internat de l'école Supélec de Rennes, à Cessé-Sévignon, un incendie de grande ampleur s'est déclaré la nuit dernière. 53 personnes ont été évacuées, 300 en situation d'urgence grave. On ne sait pas encore s'il s'agit d'étudiants ou de surveillants. Le feu a pris dans une chambre du premier étage de la résidence à 2h30 du matin. Théo Hetch.
En gilet kaki, 5 officiers ont les bras chargés d'ustensiles type fiole ou pipette. Depuis le milieu de la matinée, ils fouillent en particulier le premier étage de cette résidence étudiante à l'est de Rennes. C'est là que le feu a démarré vers 2h30 du matin dans une salle commune. Pendant ce temps, à côté, une trentaine d'étudiants traînent là, hagards, un peu perdus. Beaucoup viennent d'autres régions, des élèves ingénieurs, de Paris notamment, mais aussi du sud de la France, de Narbonne. L'un d'eux que j'ai rencontré sortait tout juste de l'hôpital, traité pour une intoxication due aux fumées. Il me disait être sous choc, ne pas savoir trop où aller. La nuit a été dure, a été longue, il a eu très peur. Et en même temps, on a bien réagi, dit-il. On a tous réussi à sortir, tous. Sauf un, il dormait. Il est ce matin en urgence extrême. En tout cas, quand les pompiers l'ont transporté à l'hôpital de Rennes tôt ce matin, ses jours étaient en danger. Alors forcément, ici, tout le monde est tendu. L'administration, comme les élèves, personne ou presque ne parle aux journalistes. Ils en devraient en savoir plus dans l'après-midi. Théo Hetch, France Bleu Armorique pour France Inter.
Et mille excuses pour les Rennais. Il s'agissait de Cesson-Sévigné et non Cessé-Sévignon. Tout à fait le contraire. La pédophilie dans l'église. Le cardinal Philippe Barbarin et 6 autres personnes ont cité à comparaître en septembre devant le tribunal correctionnel de Lyon, cité par des victimes d'agressions sexuelles au sein de l'église qui leur reprochent de ne pas avoir dénoncé ces faits à la justice. Leurs avocats l'ont annoncé ce matin, Claude Cordier.
En fait, la citation directe porte sur une différence d'interprétation de la loi qui oblige à informer sur des faits de violence à mineurs et à personnes vulnérables. Le parquet, lui, a classé sans suite l'été dernier cette obligation de dénoncer pour prescription. Pour l'association et pour les avocats qui ont planché sur le sujet, cette obligation de dénoncer ne doit pas s'arrêter au moment où l'on apprend les faits, mais au contraire, doit perdurer dans le temps. Ce que précise l'un des avocats de la parole libérée, maître Jean Boudot.
Pour dire que l'infraction est prescrite, le procureur estime que l'obligation d'informer n'existe qu'à l'instant où on apprend le délit ou le crime que l'on doit dénoncer et qu'elle disparaît finalement immédiatement après. Nous pensons que l'analyse est fausse. Tant que la justice n'est pas informée, par exemple, d'une infraction sexuelle sur mineur, celui qui a connaissance de cette infraction doit la dénoncer. S'il l'apprend le lundi et que pour une raison ou pour une autre, le lundi, il n'a pas le courage ou la lucidité ou le temps d'aller la dénoncer, eh ben, il doit le faire le mardi, évidemment.
7 personnes sont donc convoquées pour une première audience de consignation le 19 septembre, dont le cardinal Barbarin, son directeur de cabinet, et même le secrétaire de la Congrégation de la Foi au Vatican. Une dernière action de l'association qui dit ne pas s'acharner, mais vouloir réorienter la loi et élargir la prescription en matière d'obligation d'informer. Le procès du père Prénat, auteur des faits, lui, doit se dérouler l'an prochain. Lyon, Claude Cordier, France Inter.
La suite de la visite en Israël et dans les territoires occupés de Donald Trump. Le président américain a passé la journée d'hier à Jérusalem. Ce matin, il s'est rendu à Bethléem, en Cisjordanie occupée. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Alain.
Donald Trump qui a redit son fort désir de paix, plus facile à dire qu'à faire évidemment.
Oui, c'était à Bethléem. Et ce qui transpire d'abord, la première image, c'est que la nature des relations n'est pas comparable d'un côté et de l'autre du mur de séparation. Hier à Jérusalem, le président américain est accompagné par sa femme et sa fille. Aujourd'hui, ce matin à Bethléem, dans le palais présidentiel, il est entouré par ses conseillers. Donald Trump parle de renforcer l'économie palestinienne, de lutter conjointement contre le terrorisme. C'est le thème de la rencontre avec le président de l'autorité palestinienne. Il répète sa détermination pour la paix. Il fait part de son optimisme et il demande au président palestinien de lutter contre toutes les formes d'encouragement à la violence. À ses côtés, le président de l'autorité palestinienne ne fait pas de conditions préalables pour la reprise des discussions, mais il rappelle ses paramètres avec la solution à deux États et il tient à préciser la nature du conflit pour lui, qui n'est pas religieux, pas ciblé contre le judaïsme, mais lié à l'occupation et à la colonisation. Cette rencontre dans le palais présidentiel à Bethléem réaffirme donc la volonté américaine de relancer les pourparlers de paix, mais elle ne dissipe pas l'impression de flou qui perdure après 24 heures de voyage dans la région. Reste un discours pour le président, il vient de le commencer après un rapide passage par le mémorial de l'Holocauste Yad Vashem.
Merci Étienne Monin. Les domiciles de deux joueurs argentins du PSG, Javier Pastore et Angel Di Maria, ont été perquisitionnés ce matin, ainsi que le siège social du PSG au Parc des Princes et les bureaux administratifs du club à Boulogne-Billancourt. Selon France 2 et Mediapart, Pastore et Di Maria auraient dissimulé une partie de leurs revenus au fisc français dans des paradis fiscaux. Les perquisitions ont été menées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre dernier déjà par le parquet national financier pour blanchiment de fraudes fiscales aggravées. Allez, on termine comme d'habitude en allant à Cannes pour cause de grosses fêtes qui célébrera le 70e anniversaire du festival. Il n'y a qu'un seul film en compétition aujourd'hui et ça tombe bien, vous l'avez aimé. Eva Bétan, bonjour.
Oui, il est très beau. Bonjour. En ce jour anniversaire, c'est bien qu'un film, c'est le film de Naomi Kawase, évoque de manière magnifique notre lien au cinéma. Kawase est une immense cinéaste. Elle a des mains de fée pour évoquer des choses profondes. Alors, comment parle-t-elle des spectateurs de cinéma? Eh bien, avec des spectateurs aveugles. L'alchimie, ça lui permet de rendre le mystère de l'alchimie de ce qui se joue entre un écran et des gens. Mais je dirais que c'est plus profond que cela. Comment on fait pour atteindre l'autre? C'est peut-être le sujet en creux de ce film. Le film se joue en partie dans un studio où on enregistre l'audio description d'un film, c'est-à-dire que quelqu'un décrit un film pour les non-voyants. Et il y a là des consultants qui sont des aveugles et aussi une personne qui est un homme en train de perdre la vue, donc lui il est dans cet entre-deux qui dit ce qu'il ressent. Ils veulent sentir l'âme d'un film, l'âme d'une personne, l'âme du monde, peut-être que tout ça est lié. C'est très beau. Si vous prenez ce film, serait infaisable sans des mains extrêmement délicates. Ça pourrait être un mélo, ça pourrait être... Et avec elle, on arrive à des choses très 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 subtiles qu'on n'arrive pas à qualifier et c'est un film qui à la fois va vous serrer la gorge et va vous apaiser.
Voilà, ça s'appelle Vers la lumière, hein, Eva, et c'est signé
de la japonaise Naomi Kawase.
Un mot, Eva, sur ce 70e anniversaire du festival.
Alors, il y a eu la photo, la fameuse photo qui a été prise tout à l'heure avec le chiffre qui était annoncé, 110 personnalités. Au premier rang, vous savez, c'est comme les photos de classe à étage. Au premier rang, il y avait les Palmes d'Or. Il y avait Jeanne Campion à côté d'Anneke, Lelouch, Laurent Canté, Christian Mungiu, Moretti. Derrière, une kyrielle de vedettes, que ce Vincent Landon, Isabelle Huppert qui ont déjà eu des prix d'interprétation, mais aussi Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Uma Thurman, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Antonio Banderas, Charlize Theron. Vous voulez que je continue? Non, ça va aller. Frémo leur a fait faire la ola, quand on aime le foot, on ne se refait pas. Et il a annoncé qu'il y aurait une minute de silence à 15h, à laquelle il appelle tous les festivaliers.
Merci Eva Bétan, direct de Cannes, on vous retrouve demain. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.